Enfin, moi, j'ai un problème avec ça. On va avoir un problème donc, avec cette ovule qui va arriver, mais elle sera là trop tôt, puisque le sperme n'est pas encore arrivé vers elle, et donc on n'aura pas d'ovulation. Ça serait notre problème dans ce cas-là. Ces deux manières de vérifier, donc l'observation du cycle menstruel et le prédicteur d'ovulation, c'est facile, c'est à la maison, c'est pas compliqué à faire, ça ne demande pas un effort particulier. Mais comme on l'a dit, ça ne donne pas forcément une réponse automatique. Pourquoi? Comme j'ai dit avant, le cycle menstruel, on a des petites choses qui peuvent faire changer notre corps. Ça peut être tout bête, d'accord? Si j'ai eu un rapport, j'aurai des sécrétions différentes, puisque j'aurai du sperme qui va être mélangé avec ce que j'ai, dans le cas où ça prend le mikvé. Si j'ai eu des antibiotiques, ça peut changer aussi la nature de mes sécrétions. On n'a pas de température, ça peut changer selon que j'ai dormi dans une chambre très froide, très chaude, je suis malade ou autre chose. De même, les prédicteurs d'ovulation, ils ne sont pas forcément plus fiables non plus. Enfin, si, ils sont fiables pour les femmes qui ont un cycle comme il faut. Par contre, une femme qui souffrirait de syndrome polykystique, elle va avoir un LH qui va être très élevé tout le temps. Et donc, elle va faire un test d'ovulation à J4, elle va dire « Oh, je suis en période fertile, qu'est-ce que je vais faire ?» Elle va faire à J8, « Oh, je suis en période fertile !» Elle va faire, d'accord? Et en fait, elle sera toujours en période fertile, entre guillemets, même si elle ne l'est jamais. Parce qu'en fait, elle est toujours en train d'avoir plus et plus et plus d'hormones qui viennent, et le kit va voir cette hormone parce que son niveau est différent. Plus encore, ces hormones que les prédicteurs d'ovulation vont chercher, il y a aussi, je pense qu'il y a aussi ceux qui cherchent le LH, ceux qui cherchent aussi l'estradiol lui-même. Il y a deux différents types. Mais ces choses-là aussi, les taux sont différents selon l'âge. Donc, il y a des taux de base qui sont normaux pour une jeune fille de 20 ans, ou parfois encore 18-20 ans, où le cycle n'est pas encore mis complètement en place. Ça prend du temps, même quand on a les règles 3 ans, 4 ans avant. Et donc, on va paniquer, mais en fait, ces taux sont absolument normaux. Et c'est plus tard que ça sera différent. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Ça existe, c'est bien, mais ce n'est pas forcément assez bien. Pour vraiment savoir où on en est, on va devoir aller à la coupa et s'amuser chaque fois, une fois après l'autre. Ça va être le monitorage des ovaires, donc faire des échographies pelviennes, c'est pas agréable, c'est se réveiller très tôt, faire un voyage pour aller jusqu'à la coupa trolim, attendre avec une autre femme, c'est pas quelque chose qui est rigolo à faire, ça prend beaucoup de temps. Après, il faut courir de nouveau pour aller vite, vite, vite au travail, expliquer pourquoi on est essoufflé alors qu'on vient de commencer la journée. Mais ça permet de voir l'évolution des follicules. La technicienne pourra voir combien il y en a, est-ce qu'ils grossissent, et par rapport à la taille qu'elle a, dire « Ah, vous allez ovuler demain, ah, vous allez après-demain ». Là aussi, ce n'est pas toujours exact, puisqu'on sait plus ou moins la taille d'un follicule pour qu'on puisse dire qu'il est prêt à ovuler, l'ovule est prêt à sortir. Parfois, c'est un peu plus long, un peu moins long. Pour rentrer un instant dans le côté personnel, ma deuxième fille est arrivée après qu'on m'ait dit que j'allais ovuler demain, et je me suis dit, bon, c'est manqué parce qu'il y a 3 jours avant le coup. Elle est bien arrivée. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très exact, mais ça, c'est beaucoup plus exact, et surtout, ça permet de savoir si les follicules se développent de manière correcte, normale, et si on a assez. Et la deuxième chose, c'est donc les prises de sang pour déterminer le taux d'hormones, puisque nous voulons savoir comment les hormones... Il y a 3 hormones qu'on va vérifier, 2 particuliers et un troisième. L'hormone follicostimulante, le FSH, dont on a parlé, pour voir s'il est en place, pour savoir si on est en période folliculaire ou utéale. L'hormone de l'estradiol aussi, où on voit aussi ce qui se passe avec. Et enfin, dans certains cas, c'est par la suite, on en reparlera après, l'hormone antimullérienne, le AMH, qui elle, par contre, va vérifier la réserve ovarienne. C'est-à-dire pour la suite, mais c'est aussi quelque chose qu'on prendra en compte. Rappelez-vous de ce nom. L'hormone antimullérienne, parce qu'elle est aussi importante. Mais en gros, avec ces hormones-là, on peut vérifier plus exactement quand se produit l'ovulation. Et je le redis, il sera très bien de savoir quand l'ovulation se produit. On peut savoir quand on est avant l'ovulation, on peut savoir quand on est après l'ovulation. Par contre, savoir quand on ovule exactement, c'est extrêmement difficile à trouver, puisqu'on ne sait pas vraiment, dire c'est un instant qui se produit. Et on n'a pas vraiment de manière de savoir pile quand ça arrive. Donc, au maximum, on aura évaluation, on sera plus ou moins, on sera très proche, mais pas forcément pile à jour. En plus de ces donc quatre choses qu'on peut faire, il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est l'âge de la femme. D'accord ? Je ne l'ai pas encore dit, mais je pense que tout le monde le sait. En moyenne, un couple en bonne santé où la femme a moins de 35 ans, ils auront une grossesse en route dans l'année, souvent les 6 à 8 mois. Dans l'année, après un an, on va dire que le couple doit aller voir un gynécologue pour voir ce qui se passe. La femme a plus de 35 ans, on réduit ça à 6 mois. La femme a 40 ans, on va directement chez le gynécologue parce qu'on vérifie ce qui se passe, puisque justement, la réserve ovarienne dont j'ai parlé, ces fameux hormones antiménorrhées, elle va baisser au fur et à mesure. On est avec toutes nos futures ovules, d'accord, et plantes aussi. La petite fille, dans le ventre de sa mère, a déjà toutes les ovules qu'elle aura tout le temps, jusqu'à la fin de sa vie, et ça baisse au fur et à mesure. Donc, on va voir, est-ce que la réserve est suffisante? Si, quand on vérifie à ce test, ou à l'aide aussi d'une échographie, et on voit qu'il n'y a pas assez de réserve ovarienne, le fait qu'une femme ovule avant ou après le MQB, c'est pas notre premier problème. Notre premier problème, c'est comment est-ce qu'on l'aide à tomber enceinte, parce que c'est possible qu'elle reçoive trop de FSH pour stimuler le peu qu'elle a. Est-ce que l'ovule du tout, et si elle a très peu et que ça baisse très vite ou plus vite que prévu, on veut vite gagner ses ovules et pas les perdre. Et c'est un cas, on va aussi dire, avant même de commencer à jouer pour voir si on peut avancer le MQB, le docteur va dire, on va d'abord préserver un peu d'ovules pour la suite au cas où. Donc ça, c'est important. Troisième point, est-ce qu'il y a une ovulation? Je l'ai dit avant, on a l'histoire des syndromes polycystiques. Dans ce cas-là, donc la femme, on stimule toujours plein d'hormones. Le FSH est en masse, vraiment en masse, mais il y a tellement de petits follicules chez une femme qui a ce syndrome, que ça n'arrive pas à stimuler un ovule. Okay, en général, ce qu'on a, c'est qu'on a donc tous ces follicules qui sont présents, le FSH arrive, et parmi les follicules qui sont là, il y en a un qui va commencer à grossir. Mais s'il y en a trop, ça se répartit un peu trop. Ça se répartit trop, le FSH continue à venir, et en fait, il n'y a pas d'ovulation qui se passe. Avec cela, ça peut arriver qu'une femme ait des règles, même si elle n'a pas ovulé, après un long moment. Donc, si une femme a un cycle qui est très long, on va dire, est-ce qu'il y a une ovulation qui se produit pour du vrai? Est-ce qu'elle est dans les temps? Le problème ne va pas forcément être que la femme ovule avant ou après le MQB, mais bien plus différent. Et dans ce cas-là, on ne va pas rester dans la question ovulation précoce, mais sur plus que cela. Et évidemment, d'autres questions médicales qui sont toujours à prendre en compte. Une femme qui ovule avant le MQB, on va essayer d'aider. Mais si en plus elle a une endométriose, il y a d'autres choses à aider en plus de cela. D'accord? L'endométriose, c'est d'autres problèmes. On va quand même essayer d'arriver plutôt au MQB, mais si on ne va pas gérer le reste des problèmes qu'elle a, il n'y aura pas non plus de grossesse, il faudra prendre ça en compte. De nouveau, ça ne va pas être mon travail de SLAHA, parce que ce n'est pas mon travail, je ne suis pas médecin, mais il faut qu'on soit consciente quand une femme me dit qu'elle a 1, 2, 3 et ça aussi. Si je sais que la femme me dit j'ai aussi tel et tel problème, alors je vais dire ok, je vais vous aider à essayer d'avancer le MQB, mais il faut absolument que vous alliez chez votre gynécologue en parallèle. Que ça ne marchera pas juste comme ça, d'accord? Ou pas forcément juste comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, savoir quelles sont nos limites pour faire ça. L'ALAHA peut aider dans le domaine de l'ovulation précoce, oui, elle ne peut pas vraiment aider dans le domaine de problèmes gynécologiques qui doivent être traités médicalement. C'est deux choses complètement différentes. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait si on a décidé que c'est bon, on sait la femme ovule trop tôt? On a remarqué que la femme ovule vers J11, elle arrive au MQB vers J13. Clairement, il y a un problème. Comment est-ce qu'on fait en pratique pour l'aider? Alors, pour avancer le MQB, souvent on dit « Ok, alors on va aller au MQB plus tôt, on va faire moins de Shivanekim. » La réponse est non. D'accord? Lorsqu'on parle de processus de purification, il y a donc les règles, il y a le F-Sektara, après les 4 ou 5 jours d'attente, et après les 7 jours. Les 7 jours, ils sont immuables, on ne va pas y toucher. Ils vont rester 7 jours. Donc là, on va pouvoir jouer, ça va être les 4 ou 5 jours qui sont avant. Ou arriver un F-Sektara qui va être plus tôt. La deuxième chose sur laquelle on va pouvoir jouer aussi, c'est dans les cas où une femme a des problèmes de tâches. Et du coup, en théorie, elle pourrait arriver au mikvé à J12 sans aucun problème, à J11 même parfois, et arriver donc au mikvé avant son ovulation. Son ovulation, elle est à J14, donc elle est tranquille. Mais cette femme-là a des problèmes de tâches. Et du coup, eh bien, elle commence un Shaktara à J5. Et puis, le deuxième, le troisième jour des Shivanukim, elle a une tâche qui invalide tout, ou qu'elle invalide, et du coup, elle recommence à zéro. Et en conséquence, au lieu d'arriver au mikvé à J12 tranquillement, eh bien, elle arrive au mikvé à J15, à J16, et donc elle manque son ovulation à cause de cela. Donc ça, c'est deux choses sur lesquelles on va pouvoir travailler. Le premier, faire le Hefsek le plus tôt possible. Et le deuxième, aider à passer les 7 jours de manière aussi facile que possible aussi. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Alors pour commencer, on va voir pour le Hefsek Tara pour le faire plus tôt. Quand une femme dit qu'elle ovule avant le mikvé parce qu'elle a des règles qui durent 10 jours, j'en ai des femmes qui me disent qu'elles ont des règles qui durent 10 jours, avec ou sans rapport à l'ovulation. Les femmes qui ne veulent pas être enceintes, mais elles ont juste. C'est long, quoi. 10 jours de règles, après 7 jours de. Ça fait 17 jours, il ne reste rien, je ne peux plus, j'en ai ras-le-bol. Sans même rapport avec l'ovulation elle-même. Donc la première chose que je fais, c'est je détermine avec elle la longueur du saignement. Est-ce qu'elle a vraiment ses règles pendant 10 jours? Très souvent, pas toujours, mais assez souvent, une femme qui me dit qu'elle a un saignement pendant 10 jours, en fait, elle veut dire qu'elle a déjà des tâches qui commencent 2, 3, 4 jours avant les règles. Maintenant, ces tâches-là sont embêtantes. Elles peuvent ou peuvent ne pas l'avoir en Nida. Elles vont être embêtantes par rapport à ses rapports avec son mari, puisqu'on va limiter les rapports intimes, mais elles n'ont pas de rapport avec les règles elles-mêmes, d'accord? Avec le nouveau cycle. Ça peut indiquer, dans l'autre côté de l'équation, qu'il y a un problème de maintien d'utérus, c'est-à-dire que une fois que la femme ovule, le corps jaune ne tient pas 14 jours comme prévu, ou 16 jours, ce qu'il faut, ou 12 jours, et que du coup, l'endomètre commence à s'effilocher et à faire des tâches avant l'heure. Ça peut indiquer ce problème. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a des règles qui durent 10 jours. Les règles commencent quand le flux commence, et c'est là que dans notre petite image de la menstruation, on parle de règles quand on parle de flux. C'est vrai pour la halakha quand on compte, quand c'est qu'on commence nos règles par rapport au calcul des mesatot, donc des règles anticipées. C'est vrai aussi par rapport au médicament. Les règles commencent quand ça commence. Avant, c'est quand cet endomètre n'est pas encore, il n'est plus stable, mais pas quand tout s'est vidé. Donc, c'est la première chose à faire. Et dans l'autre côté aussi, elle me dit, j'arrive à faire les sectas uniquement à J7 ou J8 ou J9. Et je lui dis, OK, est-ce que vous avez vraiment un flux pendant 7 jours, si c'est J7, ou est-ce que vous avez un flux pendant 5 jours et après sont des restes? Si une femme a un flux, un vrai flux pendant 7 jours non-stop, c'est vrai, elle ne pourra pas faire de Hefsek-Tara avant le 7e jour, voire le 8e, d'accord? Puisqu'il y a un flux actif qui est là. Quand une femme, par contre, a un flux qui dure, on va dire, 5 jours, un vrai flux, mais de J5 à J7, ce sont des restes, entre guillemets, elle n'est pas forcément à un stade où elle ne peut pas faire de Hefsek-Tara. Il est possible que ces restes, qui peuvent être parfois marron et même marron très foncé, ne vont pas être ce qu'on appelle du sang. D'accord? Et dans ce cas-là, on pourra travailler avec. Ça amène au deuxième.
Excusez-moi, j'aurais une question.
Bien sûr.
Bonjour, si c'est des règles qui proviennent d'un tipoul qui n'a pas marché, est-ce
Oui.
que c'est considéré comme un... Dans mon cas, j'ai rarement mes règles. Et en fait, quand j'ai mes règles, c'est quand j'ai un tipoul qui ne marche pas. Je vais savoir si moi, c'était considéré comme... Enfin, après, c'est personnel, mais est-ce que je dois attendre 5 jours, 6 jours, 7 jours, comme ce n'est pas des vraies
Oui,
règles?
dès l'instant une femme devient Nida, et ça ne change rien si la femme elle a eu une tâche unique qui la rend Nida ou si elle a eu des règles, des vraies règles, autre chose, si c'est quelque chose qui l'a rendue Nida en soi, et un tipoul qui n'a pas marché malheureusement, ça veut dire un saignement utérin, et dans ce cas-là, lui, elle est Nida pour ses 5 jours au moins. Ça, oui. Il n'y a pas de différence à ce point de vue-là. D'accord?
Merci. Merci.
Ok, on parlait donc, deuxième chose, les femmes qui me connaissent savent, ça j'aime bien le dire souvent, j'utilise souvent ce petit bonhomme à parce que je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est marrant. Une femme n'est pas une machine à laver. D'accord? Une femme fait la lessive, parfois, son mari peut aussi l'aider. Une femme sait quelle est la meilleure lessive pour faire sortir les taches sur les habits qu'elle a. Mais la femme en elle-même n'est pas une machine à laver. Les sécrétions qui sortent de notre corps ne sont pas forcément des sécrétions blanches comme si on te lavait avec Ariel, persil ou ce que vous voulez comme, marque de lessive. Pas ce que vous voulez. Moi, je parle d'Ariel parce que j'ai des publicités d'Ariel qui vient en tête, mais ce que vous voulez, d'accord? On n'est pas des machines à laver. Donc, on peut avoir des sécrétions qui sont blanches, on peut en avoir qui sont jaunes, on peut en avoir des beiges, on peut avoir des rouges, des noirs, des marrons, de tous les types de marrons qui existent. Et une partie est autre. Ne l'est pas. Donc, si une tache qu'on voit, ou un élément qu'on voit, il est rouge ou noir, allergiquement, c'est un problème, c'est une couleur qui n'est pas permise. Par contre, le blanc, le jaune, le beige, pas de problème. Il y a une couleur qui est un peu entre deux. Certains roses pâles, parfois, peuvent être permis. Il faut les montrer. Et des marrons aussi, il y a des marrons qui peuvent être permis. On a régulièrement, je vais faire les tâches après, on voit qu'il y a régulièrement des. On a régulièrement des formations dans un temps continu. On voit aussi plein de listes de vérification avec des tâches dessus. Et à chaque fois, je suis scotchée de nouveau de voir le nombre de fois on arrive à permettre des tissus, mais on voit que c'est plein de marrons et de marrons foncés. Et pour toute personne, on ne va pas dire sensée, parce que ce n'est pas vrai, mais toute personne qui voit ça d'un point de vue biologique, technique, normal, ils diront bon, c'est du sang séché. Et donc, la femme qui voit ça, elle va dire automatiquement, ben, c'est pas bon. D'un point de vue allergique, très souvent, c'est OK. Donc, ce que moi, je dirais à une femme très souvent, c'est à partir du moment où vous n'avez plus de flux, dès l'instant où ce que vous sortez sur le tissu de vérification, ce n'est pas du rouge, ce n'est pas du noir, faites-le montrer et indiquez à la personne à qui vous montrez. Il y a des yasodachas qui voient les tâches, il y a des rabbanim qui voient les tâches. Indiquez-leur que vous êtes en train d'essayer d'avoir un enfant et que l'ovulation, elle est un peu précoce. Dans ce cas-là, la personne qui sera avec vous fera vraiment par mon et vos pour réussir à trouver une personne qui permettra ce marron, si on peut le permettre. Si dans le marron, il y a du rouge dedans, il n'y a rien à faire, d'accord? Mais souvent, on peut gagner ainsi 1, 2, 3 jours. Et ça paraît incroyable, mais oui, ça arrivait. J'ai eu des femmes que j'ai envoyées chez un rabbin parce que moi, je ne peux pas dire si ou non, elles étaient en France ou en Israël. Je leur ai dit, allez montrer ça à quelqu'un. Et après 3 mois, j'ai eu l'appel, je suis enceinte. Parce que ces 2, 3 jours qu'elle a gagné en montrant les sectaras, même marron, et même marron foncé parfois, a pu être parfois permis. Et du coup, elle a pu continuer ces 7 jours à aller au mikvé dans les temps. Et voilà, c'est tout ce qu'il fallait. D'accord, c'est pas de la magie, c'est juste aller sur la lacha. Troisième chose, les conseils de grand-mère, c'est plus naturel, médecine alternative. Donc, tout le monde a entendu parler des jus de citron, je pense. Alors, il y a différentes versions de jus de citron. Il y a celles qui disent un demi-verre avec du sucre, un demi-verre sans sucre, avec de l'eau, pas d'eau. Dès le premier jour, dès le deuxième jour, le troisième jour, j'ai eu toutes les versions possibles et imaginables. Tout existe, mais c'est connu que ça peut aider. Il y a des femmes chez qui ça aide et d'autres chez qui ça va juste faire des gros maux de ventre, on va dire ça gentiment, parce que c'est assez acide, c'était pas forcément facile pour tout le monde de prendre du citron. J'ai eu des femmes qui ont parlé aussi de prendre un thé fait de l'écorce de grenade. J'avais une amie qui avait mis dans un bocal toutes les peaux de grenade, elle avait séché et gardé pour toute l'année après Rosh Hashanah pour avoir la grenade et faire du thé à la grenade. Apparemment, ça marchait. Supplément naturel, on a donc ce fameux mastic thémani, la gomme yéménite et le yalkut roïm. Ça existe, là-dessus, j'ai quand même un mot à dire là-dessus qui est important. Quand on parle de suppléments naturels qui ont un effet sur notre corps, toute chose qui a un effet positif sur le corps peut aussi avoir un effet négatif sur le corps. D'accord? Donc, si une femme va utiliser un supplément naturel qui va avoir un effet sur la circulation sanguine, sur la longueur des règles, je vous en prie, parlez-en d'abord avec quelqu'un qui est professionnel, donc un vrai naturopathe et un docteur qui s'y connaît, parce que si vous n'avez pas le droit à certaines choses, parce que pour vous, la circulation sanguine, c'est quelque chose qui est très... Faites attention à ça. Ça peut potentiellement vous mettre en danger. Donc, Ça existe, il y a des femmes pour qui ça marche très bien, mais il faut savoir le faire. Et enfin, médecine alternative, je pense à Karen Geffen, ils offrent des traitements d'acupuncture qui aident souvent à équilibrer le cycle. Je vois Carole dit oui, donc je pense que oui. Ouais. Il y a des femmes qui font du yoga, il y a plein de choses qui existent, qui sont en dehors et qui peuvent aider à trouver un certain équilibre ou à retrouver un équilibre dans le corps. Ça peut aider. Je pourrais aussi dire éviter le stress, éviter les contrariétés. Malheureusement, nous vivons dans un monde qui est très stressant, donc dire à tout le monde soyez zen, tout va aller, c'est pas forcément la meilleure chose à dire, mais oui, c'est important de savoir que ça peut aider. Quatrième chose, hygiène de vie. Ça paraît bête, mais chez certaines femmes, réduire le sucre, manger mieux, faire plus de sport, ça peut aider aussi. C'est pas du miracle, je parle juste de choses qui sont normales, même pas halakhiques, quoi. Juste normal. Le point d'après, par contre, je l'ai mis entre parenthèses et pour une raison. Lorsqu'on veut faire un Nefsektara, aussitôt possible, on peut se nettoyer le vagin avant. C'est permis. En général, une femme, le matin, va aller aux toilettes, prendre son doigt, prendre papier et un peu nettoyer la paroi vaginale pour voir ce qu'il en est. Elle peut recommencer une demi-heure, une heure après nouveau pour enlever les derniers résidus et derniers résidus. Et le temps qu'elle arrive à la fin de la journée, tout sera tranquille, tout sera bien. Certains préconisent de faire une douche intime. Et j'ai hésité à le mettre dans cette liste parce que il y a. Disons, j'ai des amis qui me diraient que je n'ai pas le droit de mettre ça parce que ça peut être problématique. Une douche intime, si une femme a des. Une femme, quand elle fait une douche intime, en fait, elle va tout laver. Et quand elle lave tout, elle a aussi les muqueuses, elle a la flore vaginale qui protège le vagin. Et donc, faire une douche intime une fois par mois pour aider un petit peu avec de l'eau uniquement en douceur, ça peut aider à arriver à un Nefsektara plus tôt, puisqu'on va tout nettoyer. Si on a fini le vrai saignement, que c'est juste les dernières choses qui traînent un peu dans le vagin, ça peut aider. Par contre, et c'est important de savoir, une douche intime, ça peut aussi être une porte ouverte aux mycoses, d'autres problèmes, et c'est pour ça que je mets entre parenthèses, ça existe, les femmes le font, ce n'est pas recommandé par des gynécologues, aucun médecin. D'accord? Par contre, le faire une fois par mois parce qu'on a besoin d'avancer. J'en ai parlé avec des collègues, elles m'ont dit oui le mettre parce que les femmes utilisent et parce que ça peut être important d'aider une femme, mais je mets quand même la note de l'astérisque en même temps pour dire que ce n'est pas forcément la meilleure chose et c'est important de le savoir d'un côté comme de l'autre. Et enfin, un dernier point qui est vraiment alarmique et c'est encore plus vrai maintenant en hiver, ne pas attendre la fin de la journée. D'accord? Ça, c'est sans aucun rapport même aux femmes qui soient en désir d'enfant ou pas. Le nombre de femmes qui m'appellent parce qu'elles ont attendu la dernière minute et je vous promets, Murphy travaille des heures supplémentaires, la demi-heure avant le coucher du soleil, la demi-heure avant un chukia, été ou hiver, je vous garantis, vous allez être occupé. Vous allez être dans les bouchons, vous allez être à la sortie du GAN, vous allez être en train d'aider quelqu'un, d'avoir un appel téléphonique urgent. Il y aura quelque chose qui va se passer et vous ne serez jamais libre à ce moment-là de faire ce qu'il faut faire. Ça va être un gros problème en fait. Et donc, commencer en avance. Si je commence à essayer de faire un Nefsektara 2 heures avant, j'ai le temps de faire un essai, de donner à la flore vaginale de se remettre en place, de refaire un essai, d'attendre de nouveau, et ainsi, et de nettoyer, et en parallèle aussi de pouvoir réussir à faire un Nefsektara sans me faire du mal. Et ça, c'est vraiment important. À part ces choses-là qui sont des choses. Je pense logique. Il y a d'autres choses pour avancer l'EFSA, etc., qui sont plus halakhiques, qui se demandent d'avoir déjà parlé avec une yועצת halakha ou avec un rabbin. Alors, il y a des femmes qui vont réussir à faire l'EFSA quand elles le font, d'accord? Assez tôt pour elles pour arriver au mikvé dans les temps. Mais après l'EFSA, elles risquent d'avoir un dernier à-coup, une dernière tâche, un dernier quelque chose. Dans ces cas-là, on va s'en permettre à la femme de mettre des faux vêtements de couleur ou des protège-slips même blancs, parce que cela ne contracte pas l'impureté. Et du coup, ça va permettre à la femme de ne pas tenir l'ida une fois avoir fait son Nefsektara. Elle sera tranquille. Ces mêmes femmes, en général, on va donc aussi omettre le mordahouk. Une femme qui, une fois que l'Nefsektara est tranquille, génial, mais une femme qui a souvent des problèmes, on va faire ce qu'on peut. Et donc, on va l'aider à arriver à garder ce Nefsektara comme il faut. la suite de jour 1 au jour 7, on va en parler dans un instant, mais au moins ça, on va l'avoir d'acquis. Parfois, une femme a un cycle qui est très court, mais elle a aussi des règles qui sont très courtes. Ça peut arriver. On sait que la majorité des femmes, c'est-à-dire toutes les Ashkenazes, et la majorité des Sfarades attendent 5 jours avant de faire l'Efsek Tahara. Si une femme pourrait en théorie faire un Efsek Tahara après 4 jours et pas après 5 jours, on peut, en concertation avec une Yoetzet Halakha ou avec un Rav, attendre 4 jours uniquement. Ça demande en général d'autres choses techniques en plus, mais c'est quelque chose qui est possible. Plus encore, dans le cas où une femme a des règles qui durent 2 jours ou 3 jours, j'en connais une ou deux comme ça, on peut parfois même avancer ça à moins de 4 jours d'attente. De nouveau, c'est quelque chose qui est assez rare. D'abord, parce que techniquement, c'est rare qu'une femme arrive à faire un Efsek Tahara si tôt. Mais dans les cas où ça peut arriver, ça peut être possible. C'est plus compliqué à permettre, mais ça peut être permis et il faut le savoir. D'accord ? Donc, ce n'est pas des choses qui sont impossibles à penser que ça va être comme ça. Maintenant, ça, c'est l'Efsek Tahara. Comme j'ai dit avant, il y a des femmes qui vont avoir un Efsek Tahara dans les temps. Mais elles vont avoir des tâches après qui vont en fait invalider le compte et recommencer à zéro. Et à cause de cela, elles vont de nouveau arriver au mikvé trop tard. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est de nouveau plus ou moins les mêmes choses et un peu différent. Premièrement, on revient sur la même phrase. Une femme n'est pas une machine à laver. Vous avez fait une dika qui a l'air d'être problématique. Ne dites pas c'est fini. Ne dites pas c'est loupé. Ne dites pas c'est mauvais. Dites je ne sais pas. Peut-être que c'est bien, peut-être que ce n'est pas, ça me paraît douteux, je fais montrer à quelqu'un. Et plus souvent que non, on va être surpris. Dans les cas où une femme a des problèmes avec des cotes qui sont problématiques, souvent on va dire de ne faire qu'une vérification par jour et pas deux comme on devrait le faire. Et en plus de cela, de penser au timing des vérifications. Qu'est-ce que je veux dire par timing? Il y a des femmes, et j'en ai eu, qui ont une petite tâche ou un petit quelque chose tous les matins. Mais d'ici à 3 heures après-midi, tout est nickel. D'accord? Dans ce cas-là, on lui dira de faire la vérification unique à 3 heures et pas après-midi. Parce que ça veut dire qu'il a plus de problèmes que cela. On va faire deux choses en plus. La première, permettre des sous-vêtements de couleur et des protège-slip. Ce qui permettra que s'il y a une tâche, ça va pas invalider le compte, et en parallèle, et de nouveau en concertation avec une Yoetzet Halakha ou avec un Rav, on va permettre moins de vérifications. Quand je dis moins, en général, le minimum qu'on va permettre, ça va être Efsek Tahara, premier jour, septième jour, et pas moins que cela. Et s'il y a un problème premier ou septième jour, alors on avisera de nouveau comment est-ce qu'on fait pour aider avec ce premier et septième jour. Je ne rentre pas dans les détails ici pour deux raisons. La première, parce que ça dépend vraiment cas par cas. Et la deuxième, parce qu'il y a certains allègements qu'on va faire qui vont vraiment dépendre d'autres choses. Est-ce qu'on permettra à une femme, par exemple, de ne pas faire une bdicote le premier jour parce qu'elle pourra faire toutes les bdicotes du deuxième au septième? Est-ce qu'on permettra à une femme de ne pas faire une au septième jour parce qu'elle a fait toutes les salles avant? Est-ce qu'on va permettre... Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte et ça va dépendre de nombreuses permutations et du coup, on ne va pas rentrer en détail, mais savoir que de un, on peut alléger cela. On peut descendre à vraiment à le minimum de Efsek Tahara, premier, septième, et c'est tout. Et que même dans ces cas-là, parfois, on peut aider au-delà. D'accord ? Il y a des femmes qui ont des trucs qui paraissent absurdes et où est-ce avec ça, mais il y a parfois des possibilités de se reposer sur des avis uniques dans la halakha et qui sont utilisés uniquement dans des cas uniques. Dans les cas habituels, on va faire cela. Voilà. Maintenant, avec tout ça, parfois, ça n'a pas suffi. Tout ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a fait ce qu'on pouvait pour avancer le moment à laquelle la femme va revenir. Parfois, et c'est vrai, on ne va pas y arriver. Pourquoi ? Par exemple, une femme a vraiment des règles pendant 7 jours. Et donc, elle arrive au mikvé au 14e jour. Et elle a vraiment un cycle de 26 jours. Et elle a vraiment une phase utérale de 14 jours. Et donc, elle a son ovulation vraiment au 12e jour. Et on ne peut pas avancer parce qu'on ne peut pas avancer le Efsek Tahara de plus. Et on ne peut pas non plus enlever des jours dans les 7 jours. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a trois choses qui sont les plus courantes, d'accord? La première et la deuxième sont toujours pareilles, la troisième est différente. Deux premières, l'insémination intravaginale et intra-utérine. Eh bien, c'est un peu comme toujours, si Mohamed ne va pas à la montagne, Mohamed va vers Mohamed. La fameuse phrase qu'on dit en Israël avec, avec Mohamed. Donc, c'est pareil. Si l'ovule ne va pas être présente quand le sperme va arriver, eh bien, on va faire le sperme arriver à l'ovule par la deuxième voie. Dans les deux premiers cas, donc le mari, de nouveau, ça va être fait uniquement avec concertation avec des rabbanim. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère parce que c'est assez compliqué de permettre aussi de sortir du sperme seul. C'est aussi une question. Mais dans ces cas-là, le mari va donc sortir son sperme. Dans le cas de l'insémination intravaginale, la femme va toute seule l'insérer dans son vagin. Une fois avant d'arriver au mikvé, d'accord ? On parle bien avant le mikvé. Donc, elle sera dans le vagin elle-même. Et de ce niveau-là, le sperme va faire le trajet habituel. Et il arrivera donc au niveau des trompes de Fallope et au niveau de l'ovule qui a été sorti à temps, dans les temps. Et on pourra avoir donc une ovulation, une fécondation. La femme ira quand même au mikvé, d'accord ? Le mikvé sera un peu décalé souvent parce que lorsqu'on a une insémination intravaginale, eh bien, la femme elle devient ce qu'on appelle un point de vue halachique, c'est-à-dire qu'elle a du sperme en elle et elle émet du sperme. Ça ne la rend pas impure, mais ça va lui la rendre incapable de compter un jour pur. C'est deux choses différentes. D'accord ? Quand elle a du sperme, on ne peut pas compter un jour pur, et dans ces cas-là, et selon les différentes autorités halachiques, elle attendra parfois rien, parfois un jour, parfois jusqu'à trois jours, quatre jours, avant de continuer le compte. D'un côté, ça lui donne les mêmes chances que tout le monde d'être enceinte. Il n'y a pas plus ou moins de chances qu'avec un rapport normal. De l'autre, ça va repousser le mikvé encore plus, ce qui, pour avoir un enfant, ne change rien. Pour avoir le contact avec son mari, lui, ça repousse et c'est quelque chose à prendre en compte. D'accord ? Quand un couple passe par cette voie-là, il faut réfléchir très sérieusement combien de temps on va le faire, parce que ça veut dire que vraiment, dans tout ce qui a à voir avec la PMA, quelque part, le couple perd son intimité. Et il faut le dire, parce que c'est... Ne pas le dire, c'est mettre les doigts dans les yeux, c'est parce que vous les yeux. Lorsqu'un couple doit passer devant des docteurs pour vérifier les taux, les follicules, les machins, et vous pouvez avoir un rapport ce soir-là, pas ce soir-là, enfin, toutes ces choses-là, on perd déjà quelque part notre intimité, et on perd quelque part notre couple aussi. Donc, l'insémination intravaginale, c'est une solution qui peut être bonne dans le cas où on a une ovulation précoce, mais elle a un prix. Le prix, c'est que le bébé va être plus tard. Et ça aussi a un prix, puisqu'en fait, la femme va s'insérer seule les choses et ce n'est pas forcément quelque chose de rigolo. L'insémination intra-utérine, c'est la même chose. Le principe que Marie sort, sauf que dans ce cas-là, au lieu de mettre le sperme au niveau du vagin, on va aller chez le docteur à la coupe à trolline qui vont l'insérer jusqu'à l'utérus lui-même. Donc, on va aider le sperme à faire moins de trajets, ce qui va permettre à plus de chances que ça arrive au bon endroit et au bon moment, puisque ça prend du temps quand même au sperme de voyager. Et dans ces cas-là, il n'y a pas non plus de conséquences sur le mikvé lui-même, puisque c'est dans le terrain, ce n'est pas dans le vagin. L'inconvénient étant qu'il faut aller chez le docteur et que c'est vraiment faire une procédure médicale. Et de nouveau, on va essayer au maximum d'éviter cela. Pas toujours c'est possible, mais dans ce cas-là, on préfère éviter. Et la troisième chose que je mets parce qu'il faut le mettre, mais personne n'aime trop en général quand on parle d'ovulation précoce, c'est le traitement hormonal. La grande chose qu'on dit contre la halakha quelque part, c'est pourquoi est-ce qu'il faut que j'ingère des hormones parce que la halakha m'empêche d'avoir des rapports quand je veux le faire. Donc quelque part, moi mettre ici la case traitement hormonal, c'est un peu être, hypocrite quelque part, mais c'est important. Quand on a des femmes qui prennent sans aucun problème des pilules à droite et à gauche pour des longues périodes, un traitement hormonal, si le seul problème est uniquement une ovulation précoce, ça va ou raccourcir le temps de saignement ou repousser l'ovulation ou les deux. En général, quand c'est fait comme il faut avec un suivi médical, c'est un traitement qui est léger. Et si le seul problème du couple, c'est l'ovulation qui est trop précoce, en général, ça sera un traitement qui va être très court puisque le couple aura rapidement une grossesse qui va être réussie. Avec ça, comme j'ai dit avant au départ, parfois le problème est aussi autre part et pas que dans l'ovulation précoce. Et il faut être conscient de cela. Avant même de rentrer dans la liste que j'ai mis ici, je veux juste rappeler à tout le monde, parce que je pense que tout le monde le sait, mais c'est important de le rappeler, quand on parle d'un couple qui a des problèmes de fertilité, s'il est vrai que la femme va en général se prendre l'énorme majorité des traitements, ce n'est pas la femme qui est en général la plus coupable, on va dire ça comme ça. Les statistiques changent un peu, on regarde l'un ou l'autre des recherches, mais en gros, 30% des cas, c'est la femme qui a un problème de fertilité. 30% des cas, c'est le mari qui a un problème. 30%, c'est un peu les deux. Et 10%, les deux sont en bonne santé, les deux se portent très bien. Et on ne sait pas pourquoi ça arrive. D'accord? Donc, d'abord, se rappeler, tout est sur la femme en général, mais ce n'est pas la femme qui est à source de tout. Et c'est important de le dire. Donc, les problèmes qui peuvent arriver, comme on a déjà dit avant, c'est la réserve ovarienne qui est basse, ou le syndrome ovaire polykystique. On a parlé aussi des problèmes d'endométriose, qui peut aussi être quelque chose, des fibromes dans l'utérus, ça peut aussi être un problème pour une implantation comme on le veut. Il y a des cas de trompes qui sont bouchées, d'accord? Je connais une femme qui a eu une appendicite en tant que jeune fille et ça s'est fait trop tard et ça a bouché la trompe, enfin les trompes. Donc sa solution, c'est de faire des fils. Parce que tout va très bien chez elle, tout va bien chez son mari, mais le passage est bloqué. Et parfois, on peut débloquer certaines choses, parfois, on ne peut pas le faire. On l'a dit avant, manque de progestérone pendant la phase utéale. Une femme qui a ovule après le MICV, mais qui n'a pas cette progestérone pour maintenir l'endomètre comme il faut avant que la grossesse se mette en place, la grossesse ne tiendra pas. Et elle aura donc des fausses couches l'un après l'autre. Cause génétique, parfois l'ovule elle-même ou le spermatozoïde a un problème dans son ADN. Et là, donc génétiquement, ça ne marchera pas. Notre corps est hyper intelligent. Et en général, lorsque l'ovule fécondé a un ADN qui est complètement fautif, eh bien, il ne va pas se développer. Et quelque part, au prochain, le corps sait ce qui n'est pas possible de continuer. Si une femme a des fausses couches à répétition, ça vaut le coup de vérifier pourquoi. Donc, parfois, ce sera à cause d'un manque de cholestérone, parfois, ce sera un manque d'autres choses dans le corps qui peut être. Et parfois, ça peut être une cause génétique. Et dans ce cas-là, on va faire des vérifications sur cela pour voir s'il y a un problème. Et dans ce cas-là, on passera à d'autres systèmes pour arriver à avoir un embryon qui est sain, qui est comme il faut. Donc, toutes choses peuvent arriver. Et c'est pour ça qu'il faut s'en rappeler. Donc, j'ai dit, l'ovulation précoce, ce n'est pas forcément la fin du monde. Ce n'est pas évident. Mais dans la majorité des cas, on peut trouver une solution anarchique qui permet d'avoir une réponse adéquate sans forcément passer par une procédure médicale, que ce soit une procédure mécanique comme les inséminations. Et parfois, on aura besoin de traitements à base d'hormones. Chaque couple verra déjà ce qui est mieux pour eux. Il y a des couples qui vont dire, même pas en l'insémination, on prend les hormones et c'est plus facile. Mais les deux existent. Mais il faut savoir parfois que le problème d'ovulation précoce, ce n'est pas forcément le seul problème qu'il y a dans ce couple. Parfois, il faut voir plus loin que ça et donc aller chez le gynécologue. Évidemment, évidemment, si vous savez qu'il y a un problème en dehors de l'ovulation précoce, vous allez chez le gynécologue en parallèle d'aller chez les Yatotalaha, si vous voulez avoir donc aussi un suivi à l'arc. Je remets ici la petite affiche avec les détails. S'il y a des questions, je suis là. Voilà.
Un grand merci, Nathalie. C'était très enrichissant.
Merci.
Et moi, j'ai une question, Nathalie, parce oui. que c'est une question qui nous revient souvent. Est-ce qu'on peut t'appeler, ou appeler une Yatsat à l'Achat de manière générale et t'appeler toi en particulier, avant un examen pour savoir s'il risque de nous rendre Nida ou pas?
Toujours important de le faire.
C'est-à-dire d'accord, voilà.
Sur le site, il y a un site de Yatsot Alaha qui s'appelle yoatsot.org. D'accord. Je vais le mettre ici dans le chat, comme ça vous le voyez directement, ça va être facile. Je crois que j'écris yoatsot.org. Ok, donc ça c'est le site. Le site, il existe en hébreu, anglais et français. J'ai essayé, je n'ai pas encore réussi à le faire, mais je mets le maximum d'informations que je peux. Et pour une grande partie des choses qu'on fait, les procédures sont indiquées sur le site pour comprendre ce que ça veut dire. D'accord ? Donc, en général, une femme pourra voir ce qu'elle a besoin de faire dès l'avance. Donc, ça, c'est déjà une chose à savoir pour commencer même. Donc, ça, c'est la première chose. Dans le cas où ce n'est pas écrit, ou dans le cas où... ou dans le cas où, par exemple, on va avoir une question qui est en plus de cela, alors appelez évidemment. Autre chose aussi, sur le site en français, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, il y a aussi écrit, il y a une fiche type pour...
chaque examen.
Pardon, je vais arriver. Pour savoir ce qu'on posait comme question à un docteur. Donc, si j'arrive au docteur et je demande en avance ce que je vais faire, je demande au docteur, oui, je vais faire telle et telle chose. Est-ce que par hasard, ce que je fais, ça va ouvrir l'utérus ou autre chose? Donc, j'ai la liste entière. Est-ce que cette procédure va ouvrir le col de l'utérus? C'est combien? Quel instrument a été utilisé? Toutes ces choses-là, c'est une information qu'on va avoir. Une partie, on saura avant, une saura après. Est-ce qu'il y avait du sang avant? Est-ce qu'il y a du sang après? Est-ce qu'une femme s'en fait saigner après une procédure? Par exemple, des procédures, ça peut être tout bête, hein, par exemple, un frottis tout bête. Okay, je ne rentre même pas dans le côté de la facilité ici, juste une consultation normale, on fait un frottis. Le frottis ne touche pas, ne rentre pas dans l'utérus. Le frottis va juste frotter la base du col, pas plus que ça. Ça ne rend pas NIDA. Le frottis, par contre, quand il frotte, peut causer du saignement. La femme qui voit le saignement va paniquer. Alors, si elle sait à l'avance et que ça ne prend pas NIDA, et qu'elle demande avant ça au docteur, est-ce qu'il y avait du saignement avant de voir le frottis, qu'il dit que non, elle est tranquille. Si elle a vu le saignement, mais sur quelque chose qui est... prend pas la pureté, aussi c'est bien. Si elle sait qu'elle va avoir un frottis, qu'elle est dans les 7 jours, elle aura appelé avant et on lui aura dit, ok, aujourd'hui, faites pas de médicat, faites-en avant, faites-en après et on va l'aider à gérer cela. Ça répond à ta question?
Oui. Oui. On a souvent la question qui revient pour, tu sais, ce fameux examen qui s'appelle, je pense, l'hystéroscopie.
Oui.
Où, en fait, il demande de venir après les règles.
Donc, mais pendant les 7 jours.
Non, ils ne demandent pas pendant les 7 jours, mais nous.
Non, mais ça tombe pendant les 7 jours chaque
fois. Voilà, exactement. Alors, souvent, les filles, elles se retrouvent à devoir se contorsionner dans tous les sens parce que, comme ça risque quand même de rentrer NIDA, alors tu ne veux pas te retrouver avec un mois sans fin où tu ne peux jamais aller au MIGV.
Voilà.
Mais alors, tu ne veux pas non plus être dans les 5 jours.
Pour vérifier, on en parlera, je pense, notre fois ensemble, mais c'est juste pour vérifier ce qui se passe dans l'utérus. Les instruments utilisés sont en général très petits. Et de nouveau, il y a des rabbanim qui vont avoir d'autres opinions, mais à Nishmat, et pour autant je sache, à Poua aussi, c'est quelque chose qui ne rend pas l'Ida. C'est quelque chose qu'on prendra en compte parce qu'il y aura des implications sur comment on va faire les 7 jours après. On sait que ça peut causer des aliments, donc comment est-ce qu'on va gérer les 7 jours si ça arrive à X ou Y jours? Et on donnera des instructions claires pour comment faire, mais en soi, ça ne va pas en NIDA. Par contre, et ça c'est important aussi, ça va être quelque chose où c'est mieux si on sait à l'avance. Donc une femme qui m'appelle, j'ai fait l'hystéroscopie hier, et là je suis à mon 7e jour ou autre chose, elle m'appelle, elle n'a pas encore fait sa BICA, j'aurais du mal à donner l'instruction qu'on clève. Par contre, elle m'appelle 3 jours avant même, 2 jours avant, 1 jour avant, j'en ai une affaire demain, qu'est-ce que je fais? Je peux lui dire très clairement, ok, voilà comment on va gérer pour que ça se fasse en avance. Trop souvent, les femmes viennent après, et pas avant. Ouais. C'est un peu compliqué pour elles. Ouais. Il y a une question, je vois dans le chat, de la symptothermie. Alors, j'en ai parlé au départ. C'est une très bonne méthode pour pouvoir faire un premier suivi d'ovulation, puisque de nouveau, la température monte après l'ovulation, mais comme j'ai dit au départ, elle n'est pas forcément assez fiable parce qu'il faut savoir le faire comme il faut. Il faut vraiment savoir Quand on prend la température, la prendre tous les matins au réveil, avant de se lever, de préférence en ayant dormi bien 6 heures comme il faut, aux mêmes heures qu'habitude, sans être malade la veille, sans avoir eu de bouillotte chaude à côté, ni d'avoir eu de chambre froide. Et donc, ça peut être un bon indicateur, mais pas forcément assez bon en tant que seul indicateur. Et du coup, parfois, on a ces applications qui vérifient pour vous ce qui se passe, qui prennent des relations. Ce n'est pas toujours assez clair si c'est assez fiable ou pas pour savoir. C'est clairement assez bien pour commencer à avoir une idée de savoir si oui ou non nos ovules avant. Voilà, ça c'est l'action que j'ai vue. Autre chose ou pas? Non, je ne vois pas.
Bon, moi, j'avais une dernière question. Toi, tu nous as expliqué tout ce qui concernait en fait la partie halakha du saignement qui dure trop, de règles qui durent trop longtemps, comment on peut raccourcir, etc. Mais Naron, que tu n'as pas abordé le thème où, par exemple, une femme va avoir des règles beaucoup trop longues et qu'on va pouvoir prendre un médicament pour raccourcir ses règles.
J'en ai parlé à la fin. Il y a parfois des traitements qu'on va avoir, traitements médicaux, traitements hormonaux, si on ne peut rien faire.
Traitement hormonal, quand on a parlé, c'était pas un traitement. Ah, j'avais pas compris.
Hormonal, j'aurais dû dire aussi ou médical. Parce que l'estradiol, par exemple, qu'on donne le...
Ça s'appelle déjà, pour voilà. Repousser l'ovulation surtout.
Voilà.
Qui est très voilà. Pour apprendre. C'est médical, c'est pas hormonal. Et de nouveau, on va essayer toujours d'arriver d'abord à une solution sans en arriver à là. Ça a des conséquences sur la femme. Il y a des femmes chez qui ça marche impec, vraiment impec. Il y a des femmes chez qui ça n'aide pas et elles ont juste des maux de ventre et des.
D'accord.
Et donc, j'en ai parlé à la fin. De nouveau, le but ici, c'est d'avoir montré tout ce qui peut exister d'un point de vue allergique. Et de montrer qu'on ne peut pas tout faire, d'accord? On n'est pas des faiseurs de miracles. Il y a des cas qui sont vraiment au-delà de ce qu'on peut faire, mais il y a beaucoup de cas où on peut aider. Comme j'ai dit avant, le cas des inséminations intravaginales ou intra-utérines. Vaginale, c'est ce qui est plus facile du point de vue faire à la maison toute seule sans personne qui nous aide, d'accord? Ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire non plus d'un point de vue halakhique, mais c'est une solution qui n'implique pas de prendre un traitement. Et c'est pour ça que je l'ai amené. Parfois, ce n'est pas assez, ou parfois, on ne veut pas faire ça. Je pense, pas tout le monde, mais beaucoup de femmes qui ont une ovulation qui est précoce et qui n'ont pas de contre-indication foncière sur le fait d'avoir ou pas des hormones ou un traitement médical, vont préférer prendre un traitement médical ou des hormones pendant quelques jours et pas faire tout ce truc de sortir du sperme, de rentrer, etc. Il y a des femmes qui ont des problèmes de coagulation. Et ce traitement médical, il est contre-indiqué. Il y a des femmes qui réagissent très mal aux hormones. Là aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et de nouveau, c'est des choses qu'on ne va pas dire ça c'est bien, c'est pas bien. Et pour moi, mon travail, c'est de dire voilà ce qui existe.
Ouais.
Si on n'arrive pas, alors on prendra autre chose.
D'accord, ok. Super.
Okay.
Top.
Eh bien, génial. Il n'y a pas d'autres questions, je vois. Donc, on va arrêter là.
Merci beaucoup, Nathalie.
Merci à vous toutes. Et je vais voir comment j'arrive à mettre l'enregistrement. On a commencé en retard. Après cet ordinateur, il n'y avait pas cette place. C'est passé sur le cloud. J'espère que je vais pouvoir recoller tout ça comme il faut. Parce que sinon, on va voir ce qu'on va faire.
Recoller et surtout nous envoyer...
J'envoie les documents avec les PowerPoint, bien sûr.
Non, j'avais pas tout ça. J'allais te dire pour les filles qui sont présentes ce soir, surtout oui. Nous envoyer les numéros de téléphone et les sites dont tu as parlé.
Qu'on puisse... tout ça.
Donc, voilà. On va tous mettre.
J'envoie tout ça de manière claire et nette demain matin et vous pourrez donner à tout le monde.
Génial.
Ça marche?
Super. Merci Nathalie, merci à tous.
De rien, avec grand plaisir à tout le monde.
Bonne soirée tout le monde.
Bonne soirée.
Bye bye.